parabole du jour avec le Père Willem.
Voici trois figures réelles de l'hospitalité. Dans un très bel article de 1996, intitulé « La condition d'étranger », Paul Ricoeur nous met en situation de recherche et nous permet d'aller plus loin en distinguant trois figures bien réelles de l'hospitalité. Trois situations qu'il classe dans un ordre tragique croissant. Le tragique de l'action, le visiteur de plein gré, l'immigré ou travailleur étranger qui réside chez nous et le demandeur d'asile ou réfugié. Pour le visiteur, il est intéressant de noter que Ricoeur ajoute au gîte et au couvert, habituellement offert, la conversation, parce que c'est à ce niveau d'échange de paroles que la dissymétrie initiale avec l'étranger commence à être correctement corrigée. La traduction constitue, selon lui, un modèle pour la rencontre de l'étranger, une véritable hospitalité langagière. Pour les immigrés, Ricoeur invite à une double riposte face à la suspicion, la méfiance, la xénophobie qui tendent à imprégner la compréhension des nationaux. La première riposte suppose la justice politique due à des travailleurs résidents comportant éventuellement la participation aux élections locales. La seconde doit se faire au niveau du droit humain d'hospitalité. Quant aux réfugiés, la plus vulnérable et la plus tragique des trois figures, Ricoeur rappelle l'existence d'un droit à la protection de populations persécutées et donc un devoir d'asile du côté des pays d'accueil, mais il reconnaît que le souci de protéger des réfugiés entre ouvertement et sournoisement en conflit avec celui de protéger la souveraineté territoriale des États. Et voici que le point important nous est donné en ces quelques lignes. Le demandeur d'asile, qui n'est pas encore réfugié, n'a pas pour arme autre chose que le principe de la bonne foi. Oui, simplement la bonne foi, rien d'autre. Or, les effets de la persécution et les circonstances de son départ risquent de ne lui laisser comme preuve que son témoignage. La recherche de la preuve ne devrait-elle pas, dès lors, être partagée entre les autorités d'accueil et le demandeur, comme le recommande le commissariat pour les réfugiés? La conclusion de Ricoeur est prémonitoire. La vérité est que les pays industrialisés dans leur ensemble tendent à se constituer en forteresse contre les flux migratoires incontrôlés que les désastres du siècle ont déchaînés. Tout conspire à éloigner le plus grand nombre de demandeurs d'asile, à les tenir à bonne distance des frontières occidentales. À cet égard, le devoir de porter secours aux étrangers malheureux reste de peu de poids, aussi longtemps que le sens de l'hospitalité universelle et le dévouement à un nouveau projet de paix perpétuelle n'auront pas surmonté, jusque dans la compréhension que nous avons de nous-mêmes, la satisfaction légitime d'appartenir à titre de citoyen libre à notre communauté nationale. Ricoeur refuse donc l'amalgame et entrevoit la solution non pas tant du côté de l'État que de celui des citoyens. C'est aux citoyens qu'il revient de refuser le fonds existant. Et c'est un fonds qu'on pourrait appeler plutôt rupture ou fossé même entre étrangers et nationaux. Et c'est aux citoyens de clarifier leur compréhension de leur appartenance nationale en refusant de fonder leur identité collective sur une logique destructrice du vivre ensemble, celle du « nous » face à « eux ». Ajoutons que l'émergence de villes-refuges comme Barcelone, Lampedusa, São Paulo attestent d'ores et déjà qu'il est possible d'envisager une politique d'accueil fidèle à la tradition d'hospitalité là où l'État semble impuissant ou défaillant. Que retenir de ce rapide parcours? L'hospitalité est une loi de l'humanité, malmenée dans l'histoire, pour ne pas dire oubliée. Elle suppose d'être pratiquée de façon concrète. L'exercice atteste notre humanité. La refuser nous expose au ressentiment et compromet l'avenir, le nôtre, et celui de nos enfants. Pour autant, l'hospitalité citoyenne ne s'improvise pas. Elle ne peut être portée par un individu seul, quelle que soit son expérience et ses bonnes intentions. Elle doit s'appuyer sur l'assentiment des citoyens et sur l'expérience du réseau associatif, seul à même de garantir un engagement durable en refusant de céder à un enthousiasme fugitif, un émotionnel versatile. Les associations savent que tout n'est pas possible, mais qu'il faut parfois tenter l'impossible pour préserver la dignité des personnes, leur courage et leur désir de vivre. Par ailleurs, l'hospitalité citoyenne est plus délicate et complexe. Elle ne peut être pratiquée de la même façon à Calais, en Île-de-France, ou à Clouange, en Moselle. Elle ne saurait opposer les étrangers aux Français, les demandeurs d'asile aux migrants économiques, les chrétiens aux musulmans. L'hospitalité n'a de sens que si elle accueille et rassemble largement l'expérience. L'expérience territoire zéro chômeur de longue durée, menée par ATD Carmonde, dont le succès repose sur la plus large mobilisation, pourrait ici servir de modèle. L'hospitalité citoyenne choisit de considérer que les frontières, si nécessaires soient-elles, ne peuvent s'ériger en murs, que nos différences sont moins fortes que ce qui nous rassemble, que la personne ne se résume pas à son identité nationale, que cette identité peut se conjuguer avec de multiples appartenances, que la citoyenneté a plusieurs visages, plusieurs couleurs, plusieurs religions, et qu'elle ne peut être heureuse que si elle est ouverte. Enfin, l'hospitalité citoyenne reste confiante. Elle refuse d'être naïve et sait que le risque zéro n'existe pas. Elle laisse la place au débat, à la controverse, à la force de proposition qui jaillit où on ne l'attend pas. Et surtout, elle fait l'expérience de la rencontre vraie, chaleureuse, heureuse. Elle ouvre une joie, la joie du grande fécondité. Elle transforme les peurs, nourrit la confiance et l'espérance en un avenir possible. À l'heure où les Français et les Européens revendiquent plus d'autonomie civique, c'est-à-dire exigent de se sentir de près ou de loin, plutôt de près que de loin, les auteurs des normes dont le sort reste à trouver. Mais ils sont les destinataires de cette recherche. À l'heure où la crise migratoire révèle une fois encore l'impuissance des nations européennes face au tragique de l'histoire, il apparaît nécessaire et urgent de poser les bases d'une hospitalité citoyenne, car il n'y a pas de citoyenneté sans relation de proximité et pas de relation de proximité sans hospitalité. La pratique de l'hospitalité est donc à la fois un choix et une nécessité, l'enjeu qu'elle représente pour nous aujourd'hui.